Chapitre 24. Cela fait déjà 5 mois que l'embargo sur le pétrole décrété par l'OPEP a officiellement pris fin. Mais l'un des principaux effets secondaires de la pénurie d'essence de 1973 est que plus personne ne circule avec un réservoir qui n'est pas au moins à moitié plein. On ne peut pas savoir quand les Arabes vont de nouveau prendre le pétrole en otage et personne n'a envie de rester bloqué pendant des heures dans ces putains de files d'attente. Par conséquent, les voitures garées devant le Fields of Hasenheid ce soir-là ont tout un réservoir plein au moins aux 2/3. La plupart, y compris les AMC Matador de Marty Butler, sont même pleines à ras-bord. Quand quelqu'un déchire une chemise d'homme, que les enquêteurs de la section incendie criminel identifieront plus tard comme faisant partie de l'uniforme d'un caporal de l'armée des États-Unis, pour en faire des bandelettes, attache un petit caillou au bout de chaque bandelette avant de la laisser tomber dans le réservoir de chaque voiture garée devant le Fields, il ne faut plus qu'une allumette, une main ferme et une paire de couilles grosses comme des œufs d'autruche pour déclencher un incendie de tous les diables. C'est ce qui se produit. Les types dans le bar remarquent la lumière danser à travers les vitres. Ça ressemble presque à des décorations de Noël. Peut-être une guirlande tendue entre deux lampadaires et se balançant dans le vent d'hiver. Mais ce n'est pas l'hiver et ce ne sont pas des décorations de Noël. Quand ils sortent tous sur le trottoir, c'est comme la fin du monde ou un truc complètement dingue. 6 voitures à la suite, l'une de l'autre, la moitié de la rue, sont transformées en véritables brasiers. La fumée et la chaleur se dégagent des carcasses en vagues huileuses. Ils tirent des tuyaux de derrière le comptoir et attrapent tous les extincteurs à portée de main pour empêcher les flammes d'atteindre le bar, mais on dirait que la chaleur vient de l'enfer lui-même. Et quand les vitres des voitures commencent à exploser, les types sont mitraillés de fragments de verre. Le pauvre Weeds en prend une bonne giclée dans l'oreille droite, suffisante pour la transformer en hachis de porc, comme si son visage n'était pas déjà assez moche comme ça. Et il le traîne à l'intérieur du bar. Quelqu'un va à la recherche d'une pince à épiler. Quand les pompiers arrivent, des étincelles pleuvent du toit et de grosses flammes bleues dansent le long de la devanture du bar. Tout le monde est évacué. Alors ils se tiennent tous là, dans la rue, Marty, Frankie et Brian Shay, avec une 15aine d'autres gars de la bande la plus redoutée de toute la partie sud de la ville. Et ils sont tous noirs de suie et hébétés. Et les pompiers les repoussent comme s'ils étaient des citoyens ordinaires, les pauvres premiers ringards venus. C'est Brian Shay qui regarde par-delà le toit du bar vers le haut du bâtiment situé derrière et il dit « Oh mon Dieu !» Les pompiers le voient aussi et ils se mettent à crier, à montrer du doigt et à appeler des renforts. Ils avaient tous cru que le bar était en feu. Mais il n'est plus menacé que par quelques étincelles et de petites flammes qui meurent déjà sous le poids de l'eau dont elles sont aspergées. Mais la maison derrière le bar, la maison où Marty fait ses affaires, fait travailler des filles et organise ses nuits de casino pour des affranchis venus de toute la Nouvelle-Angleterre, cette maison-là est la proie de colonnes de flammes qui montent à plus de 3 mètres de hauteur au-dessus du toit. Ils essaient de s'y précipiter, mais les pompiers les repoussent. À présent, la police est sur les lieux, ainsi que les services d'urgence. Et putain, il y a même des reporters de la 4, de la 5 et de la 7, et aussi du Globe, du Herald, de l'Argus et du Patriot Ledger. Marty regarde tout flamber et dit à Frankie « Si tout ça a été fait par la personne à laquelle je pense... » « Tout est ta faute, Tombstone. Entièrement ta faute. » Le lendemain matin, Bobby trouve un message scotché sur sa lampe de bureau. A. Inspecteur M. Coyne. 2. Une certaine femme de Southie. Message. « Désolée, j'ai laissé brûler le toast. Elle n'est jamais arrivée en Floride. » Elle n'a jamais quitté la cave. Bobby sait, d'après l'écriture, que c'est Cora Stearns qui a pris le message. Il la trouve au moment où elle sort du vestiaire des femmes en habit civil. Elle ne veut pas rester sur son lieu de travail une seconde de plus que nécessaire et Bobby est obligé de trottiner à ses côtés jusqu'au parking. À quelle heure cet appel ? 3 heures du matin. Elle s'est appelée une femme de ça aussi ?
Elle s'est appelée une certaine femme de ça aussi.
Et elle a dit qu'elle avait laissé brûler le toast. Cora pousse la porte et entre dans le parking.
Elle a insisté pour que je mette ça dans le message. Je lui ai dit, « Madame, que vous ayez laissé brûler le petit déjeuner de l'inspecteur me semble être une affaire d'ordre privé et vous n'avez pas à appeler sur une ligne du service. » Mais elle a voulu que je l'écrive à tout prix.
Merci.
« Donnez pas votre numéro du bureau à vos cocottes, inspecteur. Laissez vos sœurs s'en occuper. »«
Oui, Cora. » Elle lui fait un doigt d'honneur mi-amical, mi-pas si amical que ça, tandis qu'elle se dirige vers sa voiture. 20 minutes plus tard, Bobby entend parler de l'incendie à Southie la nuit précédente, et ça fait tilt. Les enquêteurs de la section incendie criminel, recherchant le point de départ du feu, établissent qu'il a démarré dans la cave. Ils donnent à Bobby un masque avec une bouteille d'oxygène, en lui expliquant que le sol de la cave a été récemment refait avec du ciment qui n'a pas encore complètement durci, donc les vapeurs sont toxiques. Ils le conduisent en bas d'un escalier noirci et braquent une lampe sur un ovale brun foncé au centre de la cave. Ailleurs, le sol est d'un bleu-gris un peu poisseux. Il y a une pellicule de ce bleu-gris sur la tache ovale, mais elle est très fine. La voix de l'enquêteur se fait entendre à travers son masque, comme si elle venait d'une baignoire.
« C'est ce que vous recherchez ?»
Bobby fait oui de la tête. Ça leur prend la moitié de la journée pour dégager le corps. Ils sont tous là, en bas, à transpirer comme des malades avec leurs masques et leurs combinaisons de protection blanche, et les pompiers qui s'efforcent d'étayer tout le sous-sol et de faire en sorte qu'il ne s'écroule pas sur leur tête. Pour extraire le corps, ils sont obligés d'envoyer quelqu'un à l'entrepôt des équipements spéciaux à Canton pour chercher le bon outil, une sorte de marteau-piqueur avec une lame comme un couteau à mastic, mais ils découpent dans le sol un rectangle parfait qui ressemble, à juste titre, à un cercueil. Régulièrement, ils remontent sur la terrasse, à l'air libre, parce que, même avec les masques et l'oxygène, ils ont facilement la tête qui tourne là, en bas. Brian Shay et une demi-douzaine d'autres gars de Butler les observent depuis les petites tables situées à l'arrière du bar et leur demandent pourquoi ils ne sont pas ailleurs occupés à lutter contre la vraie criminalité ou alors à embarquer les nègres avant qu'ils envahissent le quartier et pourrissent les écoles et tout le reste d'ici jeudi. Gregor, l'un des types de la scientifique, vient fumer une cigarette avec Bobby. Et celui-ci lui demande pourquoi ils ont choisi d'extraire le corps, toujours pris dans son bloc de béton mou et de terre.
« Recherche d'indices », répond Gregor. « On ne sait pas ce qui a pu s'infiltrer là-dedans. »
Tandis qu'ils sont assis là, une équipe du service de médecine légale sort le corps dans un sac noir et Bobby et Gregor s'écartent pendant que les types le chargent dans le fourgon de la morgue. Bobby surprend Brian Shay en train d'observer la scène depuis l'autre côté du passage. Brian est aussi froid qu'un poisson, un joueur de poker diabolique. C'est ce que Bobby a toujours entendu dire. Mais là, il n'a vraiment pas l'air dans son assiette, comme si son estomac était en train de se remplir d'acide. Bobby lui décoche un large sourire et le salue d'un grand geste de la main. À la morgue, ils enlèvent le béton et la terre autour du corps et mettent tout dans des sacs. Puis ils nettoient le corps et redressent les jambes et les bras aussi bien qu'ils le peuvent.
« Cause de la mort ?» demande Bobby.
Drew Curran, le légiste de service, lui fait une grimace.
« Je viens seulement de lui jeter un premier coup d'œil. Vous me donnez une seconde ?»
Bobby soupire et prend une cigarette.
« Vous ne pouvez pas fumer ici, inspecteur. »
Quelques minutes plus tard, Drew lance.
« Ah, oui, ça y est !»
Bobby se lève de son siège. Drew élargit un petit trou ridé juste sous la cage thoracique à gauche.
Quelqu'un a enfoncé une lame d'une bonne douzaine de centimètres sous les côtes et a transpercé le cœur. Possible qu'il la regardait dans les yeux au moment où il l'a fait.
Bobby la regarde maintenant. Cet enfant sorti du ventre de Mary Pat Fennessy il y a moins de 18 ans. Malgré les premiers signes de décomposition qui apparaissent, il peut voir combien elle était jolie. Pas seulement jolie, mais douce. La mère est toute en arêtes saillantes et très anguleux, avec un menton projeté en opposition permanente, des lèvres minces presque toujours au bord du rictus sarcastique. La mère est taillée pour le combat. La fille, en revanche, semble, même dans la mort, tout droit sortie d'un conte de fées. Comme si elle n'était pas morte, mais simplement en attente du prince dont le baiser va la ramener à la vie. Un prince qui, tandis que Bobby et Drew sont là à la regarder, s'approche du bâtiment et du terme de sa quête. « On n'est pas fait pour les princesses ici-bas », pense Bobby.
« Qu'est-ce que vous avez dit ?» demande Drew.
« Rien, » répond Bobby. « Rien du tout. »«
Vous avez ce qu'il vous faut ?»«
Oui, » dit Bobby avant de partir.
Quand elle appelle de nouveau, il est à son bureau, au milieu de son service.
On est passé chez vous, on vous cherchait.
Je ne suis pas là en ce moment,
répond-elle. C'est probablement une bonne chose.
Si je comprends bien, vous avez trouvé un corps dans un bâtiment incendié récemment?
Oui, effectivement.
Est-ce qu'il a été identifié par un proche parent?
Nous attendons que le proche parent veuille bien se présenter.
Est-ce que le proche parent devrait craindre une arrestation?
Pour quel motif?
À vous de me le dire.
Tous deux gardent le silence un instant.
Mon père, finit par lui dire Bobby, était le meilleur peintre en bâtiment que vous ayez jamais vu. Intérieur, extérieur, peu importait. Avec un pinceau ou un rouleau, c'était un magicien. Mais les gens lui posaient toujours des questions sur la pourriture du bois, les murs porteurs et même l'électricité. Mon père leur répondait « Je fais une chose mieux que personne parce que je ne m'occupe de rien d'autre. »
« Ça devait être un chouette type, »
dit Mary Pat.
« Quand il était à jeun, ouais, il était. »
Bobby se rend compte en cet instant combien ce vieil enfoiré lui manque.
« Je suis un enquêteur de la criminelle et je m'occupe de meurtres. Je n'enquête pas sur les incendies. Les enquêteurs de la section incendie criminelle sont là pour ça. Je n'enquête pas sur les affaires de coups et blessures. Je ne m'occupe pas de quelqu'un qui, disons, affirme avoir été forcé de s'injecter de l'héroïne dans une veine sous la menace d'une arme. »«
Eh ben, c'est dingue cette histoire, »
dit Mary Pat.
« Oui, hein ?» dit Bobby avec un petit rire. « Vous devriez entendre aussi celle du gosse qu'on a menacé de castration. »«
Ici ?»
dit Mary Pat.
« Aux États-Unis d'Amérique ?»«
C'est ce qu'on soupçonne, oui. »«
Mais où va le monde, inspecteur ?»«
Je ne sais pas, Madame Fennessy. Vraiment, je ne sais pas. »
Le silence sur la ligne est confortable. Jusqu'au moment où Bobby arrache le sparadrap.
Vous pouvez me retrouver à la morgue de la ville de 112 Esther Street dans 2 heures?
La voix de Mary Pat s'assombrit et vire au noir absolu.
J'y serai.
Il se tient à côté d'elle dans le couloir, tandis que Drew Curran pousse le chariot jusqu'à la vitre, le drap couvrant le corps de la tête aux pieds. Drew contourne le chariot et se place du côté le plus proche de la vitre et pose les doigts sur le coin du drap. Puis il regarde Bobby à travers la vitre.
« Vous êtes prête ?»
demande Bobby. « Personne n'est prêt pour une chose comme ça, » répond-elle en aspirant un peu d'air.
« Ok, ok.
Allez-y. » Il fait un signe de tête à Drew. Drew replie le drap, s'arrêtant aux épaules.
Oh
laisse échapper Mary Pat. D'abord son visage s'affaisse, puis c'est son corps tout entier. Et Bobby la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Et toujours ce seul « oh » plaintif qui sort de ses lèvres sans arrêt. À travers la vitre, elle contemple le corps de sa fille, puis elle presse son visage contre la vitre dans un mouvement si rapide et avec une telle force qu'elle entraîne Bobby avec elle contre la fenêtre d'un coup. Elle se dégage de lui d'un haussement d'épaule, plaque ses paumes contre la vitre et pleure en murmurant le nom de sa fille. Bobby ne la voit pas partir. Elle remplit les papiers, puis s'excuse pour aller aux toilettes, et au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il ne l'a pas vue ressortir. Ils envoient une technicienne du labo, mais elle n'est plus là. Sa voiture n'est plus sur le parking derrière le bâtiment. Il entend ce « oh » résonner dans sa tête et se demande s'il parviendra à s'en débarrasser un jour. Il s'avère que la maison derrière le Fields of Asenrai n'est pas au nom de Marty. Elle est au nom d'un type dont le corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture sur le parking longue durée de la gare Amtrak à Pawtucket en 1969. Ce type s'appelait Lou Spiro et il ne laissait derrière lui aucun parent, si bien que personne ne s'était intéressé à son patrimoine. Mais Lou était assis sur de véritables mines d'or, un magasin de vin et spiritueux à Southsea, une station de lavage de voitures à Medford, une société de compactage de métaux à Somerville et de clubs de striptease à Revere, que tout le monde depuis longtemps supposait appartenir à Marty Butler. Si la police de Boston ne peut pas relier directement Marty ou Frank Toomey au corps qui a été trouvé dans le sous-sol, elle peut geler tous les biens du regretté Lou Spiro et commencer à prendre des mesures en vue de la saisie de toutes ses propriétés. Ce qui fait de l'incendie de la maison située derrière le Fields of Asenrai la calamité la plus désastreuse, et de très loin, qui ait jamais frappé la bande de Butler. « Il faut que vous quittiez la ville », dit Bobby à Mary Pat quand elle l'appelle une nouvelle fois. « Peut-être même le pays. »
« Mais pourquoi ?»
demande-t-elle, feignant la plus grande innocence. « Vous êtes la femme à abattre. » Elle tire une bouffée de sa cigarette. « Ram et George ont avoué, » lui dit-il. « Ça va être dans les journaux demain ou après-demain. On est en train d'étayer tous les détails qu'ils nous ont donnés. Vous avez gagné. » Cela provoque un rire humide et douloureux à l'autre bout de la ligne.
J'ai rien gagné du tout. Ils sont toujours en liberté.
On a George Dunbar qui déclare que Frank et Marty l'ont engagé pour refaire le sol de la cave avec du béton rapide.
Et alors?
Alors, ça établit un lien entre eux et le corps.
Ils auront une vingtaine de putains d'alibis minimum pour la nuit où elle est morte. Ils auront des témoins qui les auront vus à Persia dans l'Iowa. Vous n'avez rien contre eux.
On a l'ordre donné par Frank à propos d'Oggie Williamson.
J'ai entendu parler de cet ordre,
répond Mary Pat.
Finir le boulot pourrait vouloir dire n'importe quoi. C'est ce qu'ils diront devant un tribunal, vous le savez bien.
Il le sait.
Ils vont s'en tirer exactement comme ils se tirent de tout.
Mary Pat, dit-il. Ne foutez pas votre vie en l'air en essayant de faire quelque chose qui ne peut qu'échouer.
Ma vie, c'était ma fille. Ils ont pris ma vie en prenant la sienne. Je ne suis plus une personne, Bobby. Je suis un témoignage.
Comment ça?
C'est ce que sont les fantômes. Ils témoignent de ce qui n'aurait jamais dû arriver et qui doit être réparé avant que leur esprit ne quitte ce monde.
Mary Pat. Vous avez besoin d'aide. Un ricanement sinistre.
Ce n'est pas moi qui vais avoir besoin d'aide, vous pouvez me croire.
Vous avez déjà porté un coup à leur trafic de drogue. Vous avez passé au lance-flammes leur quartier général. À cause de vous, au moins 5 des affaires qu'ils possédaient sont foutues, d'après mon dernier décompte. Pire que tout ça, vous les avez tournés en ridicule. Voilà qu'ils ont l'air de pauvres minables.
Ils se baladent toujours en liberté dans la rue.
Sa voix est si forte que Bobby doit écarter le combiné un instant. Quand il le remet à son oreille, elle parle plus calmement.
George vous a parlé des fusils qu'il est allé donner à des Noirs de Roxbury.
Bobby attrape son carnet. Non.
Ils étaient dans Moreland Street, pas très loin de Warren, près d'un petit parc avec un terrain de jeu. 3 types, grosse coiffure afro et bouc, tous les 3.
Bobby connaît ces enfoirés. C'est un groupuscule schizopolitique qui s'est donné le nom de Front libérien de libération globale, mais on les surnomme les Morlocks. C'est une mixture débile d'idéologies contradictoires. Stokely, Carmichael et Malcolm X mélangés avec le mouvement Back to Africa, mélangés avec le Weather Underground et la fraction armée rouge allemande, tout cela nécessitant un financement qu'ils se procurent en vendant de la drogue à ceux-là même qu'ils affirment vouloir libérer. Vous savez à quoi ces fusils doivent servir?
Brian Shay a dit qu'ils ont intérêt à faire du boucan avec.
Bon Dieu, se dit Bobby. Si j'avais rencontré Mary Pat il y a 5 ans et si elle avait récolté des infos comme ça, je serais passé inspecteur-chef à l'heure actuelle. « Quittez la ville, » lui dit-il.
« Oh, Bobby, »
dit-elle sur un ton modérément déçu.
« Personne ne réussira à me chasser de ma ville natale. »
Et elle raccroche.